Napoléon, légende et vérité. Un feuilleton radiophonique hebdomadaire d'après le livre d'Henri Guillemin. Adaptation et voix, Stéphane Verru. Une coproduction compagnie avec Vue sur la mer, Radio PFM. Avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. 24e épisode.
Le coup d'État du 18 Brumaire revêt sa signification précise lorsqu'on envisage ce qui s'est passé depuis 1789 et que l'événement prend la place qui lui revient dans la suite des choses. Au cours du XVIIIe siècle, une classe nouvelle s'est constituée au sommet de la roture, la classe des affairistes, grands commerçants, manufacturiers, banquiers. C'est la richesse mobilière. La richesse immobilière, aristocratie, clergé, tient tout grâce au roi. C'est elle qui tient l'État et elle s'exempte d'impôts. Antoine Barnave, employé des Perriers. Les Perriers sont parmi les représentants exemplaires de la classe montante. Barnave professe qu'une nouvelle distribution de la richesse appelle, entendez exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Ce qui veut dire, nous voulons saisir à notre tour les leviers de commande. Les pauvres, les travailleurs, 98% du tiers-État, étant mobilisés dans la rue contre la Bastille par les grands notables pour leur assurer l'accès au gouvernement. Mais ces exécutants plébéiens devront retourner dans leur tanière dès qu'ils auront accompli ce pour quoi on les a un instant autorisés à en sortir. On les désarme en un tournement. On établit pour leur surveillance une milice bourgeoise travestie en garde nationale. On les exclut du droit de vote. Ils seront les citoyens passifs. Leur rôle est de nourrir en silence ceux qui vivent de leur travail et en extraient leur propre opulence. Les constituants sont des voltairiens, et Voltaire a donné la formule du pays bien organisé. C'est celui, a-t-il énoncé, où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Les constituants ont poussé la prudence jusqu'à interdire aux travailleurs, sous peine de prison, toute coalition pour la défense de leur salaire. Car les constituants ont, avant tout, le culte de la liberté. Et la liberté des employeurs serait contrainte si les prolétaires prétendaient s'unir. Le 17 juillet 1791, Bailly, maire de Paris, et le marquis de Lafayette, général en chef de la garde nationale, ont donné à la mitraille une leçon à ces citoyens passifs, sortant de leur rôle et qui réclamaient sans armes, ou les eussent-ils prises, la déchéance du roi parjure après sa fuite manquée et l'épisode de Varennes. Tout allait donc au mieux pour les intérêts de la nouvelle classe lorsque le malheur du 10 août est survenu avec le suffrage universel et cette passion de Robespierre, un monstre, disait la fille Necker, baronne de Stal, pour l'équité sociale. Il parlait de prix maximum imposé pour les produits de première nécessité et avant tout le pain. Où allait-on si les marges bénéficiaires étaient compromises ? Si de tels attentats à la liberté économique étaient tolérés. Il avait fallu 2 ans pour fermer cette scandaleuse parenthèse. La société avait été rétablie sur ses bases lorsque, le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, on avait pu tuer enfin Robespierre et sa clique. Boissy d'Anglas, chef des modérés, avait prononcé ces paroles éloquentes « Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre naturel. »
C'est la vérité qui est coupable. Maximilien Robespierre. Napoléon, légende et vérité, d'Henri Guillemin, a été réédité en 2005 aux éditions Utovie.